Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Carrefour de l'Europe cette semaine pour parler d'une crise énergétique qui bouleverse tout l'approvisionnement européen. Nous nous fournissions en gaz, en pétrole et même en charbon, majoritairement auprès du géant russe. La guerre en Ukraine et les sanctions ont porté un coup fatal à ce bel édifice, contraignant en quelques mois l'ensemble du continent à revoir toute sa politique énergétique. Comment et à quel coût l'Europe se montre-t-elle solidaire? Le recours aux centrales à charbon sonne-t-il le glas du plan vert européen? Que faut-il attendre du fameux hydrogène vert? Les problèmes sont complexes. Nous essaierons de les exposer simplement avec nos invités. Avec nous en studio, Lionel Ragot, professeur d'économie à l'Université Paris-Nanterre, conseiller scientifique du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Nicolas Bergmans, chercheur en politique climatique et énergétique à l'IDRI. Nicolas Mélan, ingénieur, expert des questions énergétiques. Et en ligne, Christine Dugoin-Clément, spécialiste de la Russie, chercheuse associée à la chaire Risque de Paris 1. Bonjour à tous les quatre. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on écoute la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononcer ce mercredi son discours sur l'état de l'Union. Il y a été beaucoup question d'énergie, mais aussi d'Ukraine, car à ses côtés se trouvait la première dame ukrainienne, Olena Zelenska. On l'écoute.
This is not only a war unleashed by Russia.
Il ne s'agit pas seulement d'une guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. C'est aussi une guerre contre notre secteur énergétique. C'est une guerre contre notre économie. C'est une guerre contre nos valeurs. Et c'est une guerre contre notre futur. Il s'agit d'une autocratie face à la démocratie. Et je me tiens devant vous avec cette conviction, avec suffisamment de courage et de solidarité, Poutine échouera. Et ce sont l'Ukraine et l'Europe qui l'emporteront.
Christine Dugoin-Clément va commencer cette émission sur un terrain plutôt politique. Avec vous, la guerre en Ukraine ne se joue pas seulement sur le terrain ukrainien. Par le biais énergétique, Vladimir Poutine veut déstabiliser l'Europe. Y arrive-t-il ?
En tout cas, il y travaille en faisant un marchandage à l'énergie, donc pétrole et gaz. Le but étant d'arriver à diviser suffisamment les États membres de l'Union pour affaiblir le soutien à l'Ukraine, et que ce soit d'un point de vue matériel ou financier. Donc c'est un petit peu une stratégie russe de longue haleine que de diviser quelque part pour avoir les coups des franches quant au déploiement de ses politiques ou de ses intentions. Qu'elle soit diplomatique ou au cas particulier militaire.
Mais est-ce que l'Europe arrive à maintenir un front commun ?
Jusque-là, l'Europe arrive à tenir un front commun. Alors, on a dû transiger avec finalement une position qui était plus ferme, notamment avec des pays tels que la Hongrie, puisqu'il y avait une dépendance qui était totale. Ça reste un enjeu extrêmement compliqué, notamment pour l'Allemagne, qui a une dépendance très forte et qui est sans commune mesure avec celle de pays de l'Europe du Sud. C'est là où on aura potentiellement des dissensions. Jusque-là, l'Union européenne tient bien et a réussi assez bien à finalement stocker de l'énergie au printemps de manière assez forte pour limiter un petit peu les dommages. Mais il y a effectivement ce risque-là et c'est celui sur lequel la Russie va jouer en ajoutant à cela l'enjeu des sanctions, en disant qu'on affaiblit l'économie et qu'on a un enjeu énergétique fort.
Alors bien sûr, dans cette guerre des nerfs, la question est de savoir qui craquera en premier. Combien de temps peut tenir la Russie ?
Alors c'est toute la question, puisque la Russie avait bénéficié d'une hausse des prix assez importante, ce qui lui avait permis finalement de capitaliser, même s'il y avait eu moins de ventes, notamment de mètres cubes de gaz, mais à un prix beaucoup plus élevé, donc elle avait pu quelque part faire énormément d'entrées financières. Néanmoins, les sanctions économiques commencent à l'atteindre assez fortement, et le coût d'entretien de ce qu'ils continuent à appeler une opération spéciale en Ukraine vient gréver très fortement le budget. Donc pour l'instant, la Russie a essayé de compenser les effets combinés des différentes sanctions par des mesures budgétaires et financières très fortes, mais qui ne seront sur la durée que très difficilement tenables. La question est de savoir jusqu'où le pouvoir russe voudra aller, jusqu'où ils seront prêts à assumer ces conséquences économiques, tout en sachant qu'ils tentent un pivot asiatique, mais que, notamment parlant des énergies, des produits énergétiques, tout n'est pas fongible. Vous avez des problèmes d'infrastructure qui font qu'il est assez difficile de réorienter de manière très rapide une politique. C'est vrai pour l'Union européenne, c'est vrai aussi pour la Russie.
Et Christine Dugoin-Clément, qu'est-ce qui pourrait vraiment faire plier Moscou ? Un plafonnement des prix du gaz et du pétrole ?
C'est une bonne question. Il est probable que la réponse ne soit pas unique et qu'il faille plusieurs facteurs les uns à côté des autres. Donc vous avez parlé à l'instant du plafonnement des prix. Alors le plafonnement des prix du gaz et du pétrole sont actuellement en discussion. Le G7 parle notamment de s'attaquer au pétrole, aux rentes pétrolières, en sachant que c'est quelque chose de compliqué à faire. Mais il est très certain que ça ne sera pas simplement juste un plafonnement ou juste des sanctions, mais beaucoup plus un ensemble de facteurs qui pourront amener à une modification du comportement russe qui, pour l'instant, est difficile à voir. Et on peut même constater qu'ils ont tendance à s'enferrer derrière un pouvoir politique qui en fait une question de survie.
Merci Christine Dugoin-Clément. On repasse en studio avec vous, Lionel Rago. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on doit craindre à l'échelle européenne un hiver rude ? Avec des coupures d'énergie ou d'électricité.
Oui, on a des craintes, il y a beaucoup d'incertitudes sur le déroulement de cet hiver 2022-2023. La question des coupures sur le gaz, elle se pose dans des pays comme l'Allemagne, qui dépendent beaucoup de la fourniture de gaz russe. En France, on n'a pas vraiment de grandes craintes sur des coupures de gaz, on a plutôt des craintes sur des coupures d'électricité, qui sont pas liées d'ailleurs au conflit ukrainien et au problème de l'approvisionnement en gaz, mais qui sont liées aux 26 réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt, qui nous mettent dans une certaine difficulté. Oui. Et bien, qui sont à l'arrêt du coup. Donc du point de vue, vous voyez, des coupures, les enjeux, ils sont là. Par contre, il y a un autre enjeu qui est celui du prix de l'énergie qu'on est en train de voir aujourd'hui, qui entraîne un processus inflationniste de plus en plus important en Europe et qui peut déstabiliser les économies européennes, y compris les aspects sociaux en Europe, à travers le pouvoir d'achat des agents.
Oui, on aura l'occasion d'y revenir. Nicolas Bergmans, quand le président russe menace de couper tous les robinets du gaz vers l'Europe, est-ce que c'est une menace qui nous fait vraiment peur ? Parce que finalement, ces exportations, elles ont déjà terriblement diminué.
Elles ont déjà beaucoup diminué, en effet. Dans le cas de la France, le président français parlait récemment de seulement 9% de notre gaz qui provient de Russie, alors qu'avant, on était bien au-delà. Donc finalement, ça nous fait un peu moins peur qu'avant. Pourquoi ? Parce que depuis ces derniers mois, il y a un certain nombre de mesures qui ont été engagées, et notamment d'initiatives à la fois sur le plan européen et sur le plan national pour, d'une part, diversifier les approvisionnements, aller chercher du gaz ailleurs, et d'autre part, réduire notre demande d'énergie, notamment notre demande de gaz, et maintenant, ce qui est en discussion, la demande d'électricité pour éviter que la crise aussi touche le secteur électrique. Donc, ça nous fait un peu moins peur. Maintenant, les risques sont toujours là. Il y a beaucoup d'incertitudes, et une des incertitudes principales pour passer l'hiver, c'est évidemment le climat qui fera, la météo, qui influence fortement les besoins de chauffage pendant l'hiver européen, et qui augmente potentiellement significativement la demande d'énergie pour ce besoin de chauffage.
Et puis pour l'électricité, Lionel Rago en parlait, la question des réacteurs nucléaires, puisque la France ne produit pas seulement son électricité pour elle-même, mais aussi pour le reste de l'Europe. Donc la question, c'est de savoir si le parc nucléaire français sera en fonction pour l'hiver.
Dans le cas de la France, c'est très important. Pour le système électrique européen, c'est très important. Et vous mettez le doigt sur quelque chose qui est fondamental dans cette équation, qui est le fait que tous les pays européens sont interconnectés pour le réseau énergétique. C'est valable pour le gaz, c'est valable pour l'électricité. Et donc, toutes ces actions qu'on prend au commun, ces sommets qui se suivent et qui traitent successivement les sujets de la demande de gaz, du prix de l'électricité, etc., sont très importants pour maintenir une cohésion, pour être sûr qu'on est préparé à agir ensemble si une crise a lieu pendant l'hiver, une crise d'approvisionnement.
C'est un retournement de stratégie totale qu'effectue aujourd'hui l'Europe en quelques mois. Nicolas Mélan, vous avez l'impression qu'on s'est un peu trop reposé sur la Russie, finalement, on s'est dit, c'est pas cher, c'est pratique, on y va.
On repart une vingtaine d'années en arrière, en 1998, quand Gerhard Schröder gagne ou remporte les élections en Allemagne, mais il lui manque quelques voix pour devenir chancelier, et il a besoin des voix des écolos. Donc il fait une alliance avec les écologistes pour avoir 6% des voix, 3 millions de voix. Sauf qu'il y a une condition à ça. La condition, c'est sortir du nucléaire. Et donc en 2000, en Allemagne, la sortie du nucléaire est décidée. Sauf que quand on sort du nucléaire, il faut le remplacer par autre chose. Et donc on le remplace par des éoliennes, on le remplace par des panneaux solaires, mais on le remplace aussi par du gaz. Et c'est à ce moment-là que le gaz de la Russie devient très important pour l'industrie allemande. Et si aujourd'hui l'Allemagne n'avait pas décidé de sortir du nucléaire, elle n'utiliserait pas de gaz russe pour fabriquer de l'électricité. Donc elle se crée une dépendance. L'Allemagne et l'Europe tournent beaucoup avec l'industrie allemande. Et l'industrie allemande a besoin de gaz bon marché en provenance de Russie. Si on se rapproche, il y a quelques années, en 2014, alors que vous avez déjà eu cette crise en Ukraine, l'Euromaïdan, l'annexion, la Crimée par la Russie, au même moment, la production de gaz européenne va commencer à diminuer très fortement, notamment aux Pays-Bas. Et qu'est-ce que fait l'Europe alors qu'elle se dit « attention à la Russie, on dépend peut-être beaucoup », elle augmente ses importations de gaz en Russie, elle les accroît de 50% et donc on augmente notre dépendance depuis 5 ans, ce qui était exactement le contraire de ce qu'on voulait faire.
Une certaine forme d'aveuglement. Lionel Rago, sur l'Allemagne, on a vu justement, on parlait des projets de gazoduc avec la Russie, le Nord Stream 1, le Nord Stream 2, qui sont aujourd'hui à l'arrêt. On a dépensé des milliards pour construire ce Nord Stream 2 qui n'entrera peut-être jamais en fonction. Est-ce qu'on peut parler de fiasco de la politique énergétique allemande ?
Non, alors, il ne faut pas tout faire reposer sur les épaules de l'Allemagne. Ce qui a été dit précédemment est tout à fait juste. Hein, c'est la fin du nucléaire en Allemagne a été compensée par la montée en puissance des centrales au gaz. Mais d'autres pays aussi ont augmenté la part du gaz dans la production d'électricité.
C'est l'Europe dans son ensemble.
C'est l'Europe dans son ensemble. Alors, la France à part, puisqu'elle repose sur son parc nucléaire. Mais pour donner quelques exemples, quand même, en Italie, c'est près de 50% de la production électrique qui vient des centrales thermiques. Et on passe à 60% aux Pays-Bas. Donc, mais c'était concomitant avec aussi les objectifs environnementaux. C'est-à-dire qu'on a aussi arrêté les centrales au charbon pour les remplacer par des centrales au gaz.
Comme d'ailleurs au Royaume-Uni, où vous avez toutes les centrales à charbon qui ont été arrêtées et remplacées par des centrales à gaz et du nucléaire.
Exactement.
On va rester sur l'Allemagne qui a déjà revu son modèle énergétique. Elle redécouvre ses centrales à charbon et même ses centrales nucléaires. On écoute les explications de notre correspondant à Berlin, Julien Méchaussi.
Sortie du nucléaire, sortie du charbon, mix énergétique dominé par les énergies renouvelables. La guerre en Ukraine est venue balayer une grande partie des engagements pris par l'Allemagne. Symbole de ce revirement contraint, Robert Habeck, ministre écologiste de l'économie et du climat, qui a dû annoncer en l'espace de quelques mois la relance du charbon et tout récemment la mise en réserve de 2 centrales nucléaires jusqu'en 2023 au moins. Une dernière décision au faux air de prolongation du nucléaire. Des revirements soutenus par l'opinion publique allemande et plus surprenants par les organisations de défense de l'environnement. Sur la réouverture de centrales à charbon, l'ONG Greenpeace juge ainsi cette décision amère mais inévitable. Une stratégie qui cherche par tous les moyens à économiser du gaz, indispensable à l'industrie mais aussi aux foyers allemands dont la moitié se chauffe au gaz. 2 sites ont ainsi déjà été reconnectés au réseau d'électricité. Ces mesures, associées à des réserves en gaz qui devraient permettre de passer l'hiver, sont cependant appelées à se heurter à de nombreux obstacles. Les centrales à charbon mises à l'arrêt auront besoin de longs mois de travaux avant de redémarrer. Autre problème qui concerne les 27 centrales autorisées à reprendre leur production d'ici 2024, le manque de main-d'œuvre qui concerne toute l'industrie du pays. Érigé en solution quasi miracle, le gaz naturel liquéfié se heurte lui aussi à des infrastructures défaillantes. L'Allemagne ne dispose aujourd'hui d'aucun terminal en mesure de stocker cette énergie importée du Qatar ou des États-Unis. Dans le même temps, les énergies renouvelables sont freinées par une législation obsolète qui ne permet pas leur développement rapide. Malgré la confiance affichée par Olaf Scholz, l'Allemagne semble encore bel et bien naviguer à vue.
Nicolas Bergmans, en quelques mois, il a fallu tout changer, y compris ses fournisseurs auprès de qui l'Europe aujourd'hui se fournit.
En effet, c'est un effort qui a été mené ces derniers mois par tous les pays européens. Là-dessus, Il faudrait peut-être dézoomer et pas regarder simplement le cas allemand, mais nous aussi, nous allons chercher en fait du gaz ailleurs aujourd'hui. Et même sur, disons, les causes de la crise et les réactions, la question du charbon est certes relancée en Allemagne, mais elle est relancée en fait partout en Europe. Aujourd'hui,
tout à fait, c'était un exemple voilà, mais qui traduit bien l'ensemble de, des changements européens.
Tout à fait, c'est un exemple illustratif, mais la France est aussi, à sa mesure, en train de relancer une centrale à charbon pour l'hiver. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la philosophie aujourd'hui sur cette relance du charbon, c'est de remettre en fonctionnement des centrales qui étaient censées fermer, donc de prolonger leur utilisation. Évidemment, on n'est pas en train d'investir dans des nouvelles capacités, c'est des capacités qui devaient fermer, qui étaient là, qui étaient activables. Tout le défi, c'est justement de pouvoir accélérer les investissements dans des énergies alternatives et dans la réduction d'énergie pour pouvoir faire que ce passage par le charbon soit le plus transitoire possible et rester sur notre trajectoire de décarbonation.
Oui, en attendant, on va se fournir où dans le monde ? On est allé où ?
Alors, pour le gaz, on est allé voir le Qatar, notamment, et les États-Unis, qui sont devenus deux grands exportateurs vers l'Europe de gaz naturel liquéfié.
Et pour le pétrole ?
Alors, pour le pétrole, c'est différent. Le marché est beaucoup plus liquide au niveau international. Hein. Finalement, ce n'est pas si compliqué d'en trouver, mais principalement, les producteurs traditionnels au Moyen-Orient. Les États-Unis ont notamment aussi renvoyé du pétrole vers l'Europe récemment.
Lionel Rago, oui. On parlait du gaz. On va se fournir aujourd'hui auprès des États-Unis. Du Qatar, ça demande de nouvelles infrastructures pour regazéifier ce GNL. Et ça, ça ne peut pas être fait tout de suite.
Non, alors il y a plusieurs éléments. Donc il faut déjà que les usines qui vont le liquéfier, hein, donc au point de départ, il faut construire aussi des méthaniers et les usines de regazéification, comme vous l'avez souligné. Qui existent en France, hein, on en a trois de mémoire, je crois. On en a en Europe du Sud, hein, il y en a en Espagne, en Italie, en Grèce, il y en a dans les pays du Nord, aux Pays-Bas et autres, qui ne sont pas utilisés à 100%. Hein. Alors, dans les pays nordiques, on est à 70-80%. Dans les pays d'Europe du Sud, on est à 50%. Donc, il y a un potentiel aussi pour faire arriver. Et après, on peut utiliser aussi les gazoducs qui relient les pays européens entre eux pour acheminer vers d'autres pays. Là, alors, l'Allemagne, ça y est, s'est engagé à construire son premier...
Mais ça prend quelques années. Mais
ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. C'est 2-3 ans, hein, un complexe. Alors, on se rend compte aussi qu'en situation d'urgence, parfois, ça va plus vite, beaucoup plus vite.
Nicolas Mélan, on parlait de faire venir du GNL, du gaz naturel liquéfié des États-Unis, peut-être aussi du Qatar. Et là, ça pourrait être aussi passer d'une dépendance à une autre vers le Qatar.
Oui, alors juste pour rappeler sur les États-Unis, quand même, vous savez, ce gaz de schiste, fameux gaz de schiste dont on interdit l'exploration, donc on n'a pas le droit de regarder si on en a, et l'exploitation en France. La France est le plus grand importateur mondial de gaz de schiste, pour le troisième mois d'affilée d'ailleurs. Bon, première remarque. La seconde, c'est qu'on a parlé États-Unis et Qatar, mais le Financial Times citait récemment la Chine comme le chevalier blanc venu au secours de l'Europe afin de remplir ses réservoirs en gaz naturel liquéfié, puisqu'ils nous ont vendu 45 bateaux, alors que leur situation économique est difficile avec les confinements liés au Covid. Ils ont augmenté leurs achats de 30% en 2022 à la Russie par rapport à 2021. Et donc la Chine nous revend du gaz russe avec un prix x2. x3, ce qui nous permet aujourd'hui effectivement d'être dans les objectifs de remplissage de ces réservoirs, mais a priori, il y a un peu de gaz russe dedans.
Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
Carrefour de l'Europe sur la crise énergétique sur le continent. Nicolas Bergmans, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'elle existe vraiment cette solidarité européenne en matière d'énergie ?
Elle existe de fait parce que les marchés, les interconnexions existent en Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement cet hiver que la France va importer du courant en provenance d'autres pays européens. C'est le cas structurellement depuis des années parce que notre parc nucléaire nous permet de produire à un certain niveau. Mais pour les besoins très importants qui peuvent exister en hiver, on a besoin d'importer d'autres pays. Donc cette solidarité existe. La question, c'est est-ce qu'elle va tenir face à cette crise. Et face à cela, la plupart des pays européens, aujourd'hui, arrivent à maintenir, disons, un front commun au niveau politique. À l'exception de la Hongrie, je vous le concède, qui a envoyé des
On
signaux.
On va en reparler.
Tout à fait. Mais la question, c'est que pour avoir une solidarité dans les faits, beaucoup d'actions en fait dépendent de la réaction et les mesures prises au niveau des États membres. Par exemple, sur la tarification de l'énergie, sur le développement d'infrastructures. Par exemple, la question autour du gaz ces derniers mois, c'était beaucoup, est-ce que le réseau français est capable de renvoyer du gaz vers l'Est? Et ça dépendait de l'action en fait, des industriels français. Et pour cela, il y avait des questions toutes bêtes hein, sur quels sont les standards, qui paye pour ces adaptements d'infrastructures. Tout cela, pour l'instant, dans les faits, on voit que les choses avancent. Maintenant, il y a la solidarité pour cet hiver, mais il y a la solidarité aussi pour mettre en œuvre nos objectifs de long terme. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde acceptera de déployer sur son sol des énergies renouvelables, de faire les efforts de réduction de consommation d'énergie tels que c'est planifié dans la stratégie européenne?
Cette solidarité, elle est inscrite dans les textes européens. On voit bien qu'elle fonctionne très bien. On va juste parler de cet hiver, notamment pour la France et l'Allemagne.
Alors oui, elle est inscrite dans les textes européens. On a finalement une obligation de mettre à disposition l'énergie puisqu'on a un marché commun de l'énergie quand elle est disponible. Néanmoins, il y a quand même des cas d'urgence qui peuvent être invoqués. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de construire suffisamment la confiance pour que cet hiver, les pays européens n'invoquent pas ces cas d'urgence.
Lionel Ragot, on a beaucoup parlé de créer un marché européen de l'énergie, un petit peu sur le modèle de ce qui aurait été fait pour les vaccins en Europe, au moment de la crise du Covid. Est-ce que c'est possible?
Alors oui, c'est possible. D'ailleurs, c'est le cas sur le marché de l'électricité. On a un marché européen d'électricité avec une dérogation pour l'Espagne et le Portugal parce qu'ils sont relativement déconnectés, hein, leur système électrique du reste de l'Europe. Donc c'est possible. Après, sur le pétrole, il n'y a rien qui l'empêche. Ça serait quoi un marché européen sur le pétrole ou le gaz? C'est quand
un achat commun.
Exactement. Voilà, c'est quand les pays délèguent finalement à l'Union européenne l'achat à leur compte. Hein. Ce qui a été fait d'ailleurs pendant la pandémie pour les vaccins.
Donc, et est-ce que ça résoudrait beaucoup de choses?
Alors, ça ne résoudra pas le problème. Tant que la Russie coupera le robinet, ça ne va pas résoudre ce problème-là. Où ça a un avantage, c'est que ça renforce le pouvoir de négociation. Au lieu de négocier indépendamment à 15 ou 20 auprès des pays fournisseurs, ça sera l'Union européenne qui est sur des plus gros volumes et donc qui aura un pouvoir de négociation pour faire baisser les prix.
Ouais, et pour cela, il faut arriver, je dirais, entre guillemets, à mater toujours les mêmes pays qui sont peu solidaires. Et je pense à la Hongrie. Oui, quelle est son attitude
c'est
finalement?
Pour des raisons essentielles. Alors, ils sont fortement dépendants, bien sûr, mais comme d'autres pays d'Europe centrale. Pour certains, on a donné d'ailleurs des dérogations. Hein. Mais il y a aussi une dimension politique de Viktor Orban par rapport
qui a négocié de gré à gré avec Moscou des livraisons de gaz
récentes à des prix très attractifs.
Vous en pensez quoi, vous, Nicolas Mélan, de cette solidarité européenne sur le terrain? Ça marche? Vous me parliez tout à l'heure de l'Algérie.
Oui, effectivement, parce qu'il y a deux exemples avec le Covid. Il y a l'exemple des vaccins. Effectivement, les vaccins, on les a achetés tous ensemble. Est-ce qu'on a eu un meilleur prix? Pour l'instant, j'en ai pas la certitude. Mais il se trouve qu'on les a achetés ensemble. Mais on ne parle pas des masques. Les masques, on ne les achetait pas ensemble. On se les volait sur le tarmac de l'avion en payant cash les cargaisons. Et le gaz, si vous voulez, on est plutôt du côté des masques que du côté des vaccins. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en Algérie, finalement, vous avez Mario Draghi qui y allait tout seul pour aller accéder à du gaz algérien, notamment du gaz de schiste algérien. Et Emmanuel Macron qui arrivait quelques semaines plus tard. Et là, a priori, tout était parti. Donc si on avait fait des achats en commun, ils y seraient peut-être allés à deux pour parler au nom de l'Union européenne et négocier un accord entre l'Union européenne et l'Algérie d'investissement à long terme pour développer cette ressource a priori importante de gaz de schiste. Mais a priori, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Lionel Ragot, elle marche cette solidarité?
Alors,
ou
moi,
pas
je vous donne un exemple quand même de solidarité européenne. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne va pas pouvoir substituer le gaz russe qui nous fait défaut soit par d'autres provenances géographiques, soit par d'autres sources d'énergie pour cet hiver. Donc quoi qu'il en soit, va falloir faire ce qu'on appelle aujourd'hui sous le terme de sobriété, donc une réduction de la consommation de gaz. Et vous avez vu que ce qui a été décidé, et ça montre, c'est bien un exemple de la solidarité européenne, c'est que tous les pays doivent s'engager à faire une réduction de 15% de leur consommation de gaz. Et cela, quel que soit justement leur niveau de consommation de gaz. Hein, c'est-à-dire que ceux qui finalement consomment peu pour leur production d'électricité vont faire le même effort que comme l'Allemagne ou l'Italie qui consomment beaucoup de gaz pour la production d'électricité. Donc c'est un exemple de solidarité européenne.
On va parler d'un nouveau gazoduc entre la France et l'Espagne. Madrid pousse le projet, mais Paris refuse. On écoute les explications d'Alexis Bédu.
Ça n'est pas une priorité, rappelait encore ce samedi Bruno Le Maire, le ministre de l'économie français. Paris reste méfiant sur ce projet de gazoduc. Démarré en 2013, le projet avait été abandonné il y a 3 ans par l'Espagne et la France. Trop destructeur pour l'environnement, trop cher et trop peu générateur de retombées économiques. Mais le chancelier allemand Olaf Scholz remet régulièrement ce gazoduc Midcat au centre du jeu. Il nous manque dramatiquement, expliquait le chef du gouvernement allemand il y a quelques semaines. Ce serait un remplacement idéal à Nord Stream 1 pour s'alimenter en gaz. Un gaz algérien qui s'arrête aujourd'hui en Espagne, mais également du GNL, le gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et du Qatar. Madrid est favorable à une relance du projet, y voyant un moyen de mieux s'interconnecter avec le reste de l'Europe. Mais la France bloque toujours. Elle estime que l'installation de nouveaux terminaux de GNL dans le nord et l'est de l'Europe, notamment en Allemagne, serait une alternative plus rapide et moins coûteuse que la construction d'un nouveau gazoduc.
Que dit cette querelle sur la difficulté de faire le marché européen de l'énergie, Nicolas Bergmans ?
Elle dit plusieurs choses. Elle dit déjà que tous les pays n'ont pas la même vision, ça c'est certain, et que en fait, la question qui se pose, c'est qui porterait le coût de ce gazoduc et est-ce qu'on en a besoin ? Il y a une bonne raison, disons, environnementale pour dire qu'on peut douter de l'intérêt de cette infrastructure. Notre objectif à terme, c'est quand même de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, du coup, après le charbon et maintenant le gaz, devrait disparaître du mix. Donc, investir dans une grande infrastructure aujourd'hui risque de nous bloquer, en fait, dans un système qui dépend du gaz. Et c'est tout l'enjeu par rapport aussi aux investissements aujourd'hui dans les terminaux méthaniers. Et donc, ça, c'est la bonne raison de se poser cette question. Après, ce qui est défendu par l'Espagne, c'est aussi la possibilité de transformer ce gaz pour faire venir plus tard du gaz décarboné, de l'hydrogène, etc. Mais il y a beaucoup d'incertitudes autour des besoins d'hydrogène à plus long terme. Et donc, de toute façon, ce gazoduc ne sera pas là pour passer cet hiver. Donc, on peut prendre le temps de bien réfléchir à si on a vraiment besoin d'une infrastructure comme celle.
On parlait de la réduction de 15% de notre consommation à l'échelle européenne, mais l'UE propose aussi toute une série de mesures qui doivent encore être adoptées pour essayer de lutter contre la flambée incontrôlée des prix. On écoute les propositions cette semaine d'Ursula von der Leyen avec notre correspondant qui nous les explique, Pierre Benazet.
La première demande de la Commission européenne est de mettre en place des plafonds de consommation lors des heures de pointe, car c'est là qu'on fait appel aux centrales au gaz pour produire de l'électricité. Deuxième proposition, obliger les producteurs d'électricité à reverser les revenus excessifs, ceux qui sont très largement au-delà du coût de production. Troisième idée, imposer une taxe décrite comme une contribution de solidarité à toutes les compagnies gazières et pétrolières qui réalisent des bénéfices massifs. Utiliser ensuite ces fonds pour les foyers et les entreprises les plus vulnérables. Et la Commission veut aussi imposer un prix maximal pour le gaz acheté à la Russie. Ursula von der Leyen.
Nous savons tous que nos sanctions ralentissent profondément l'économie russe avec un lourd impact négatif. Mais Poutine l'amortit en partie grâce aux revenus des combustibles fossiles. Nous devons réduire les revenus de la Russie que Poutine utilise pour financer sa guerre atroce en Ukraine. Et maintenant, notre travail des derniers mois porte vraiment ses fruits. Parce que si vous regardez le gaz importé au début de la guerre, 40% était du gaz russe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 9%.
Certains ministres de l'énergie pourraient à nouveau plaider pour que le prix de l'électricité ne soit plus lié au prix du gaz. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Il y a bien sûr cette grande réforme du marché européen de l'électricité. En plaisantant, on pourrait dire que c'est un peu une usine à gaz. J'ai envie de vous demander, Lionel Ragot, de nous expliquer comment ça marche, ce marché européen de l'électricité.
Alors, le marché européen de l'électricité, pourquoi effectivement le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz ? Ça paraît étrange, pourquoi on ne bat pas sur le pétrole ou autre ? C'est parce qu'il fonctionne d'une manière très, très simple, très claire, qui est que le prix s'aligne sur le coût de la dernière centrale qui est appelée pour satisfaire la demande, ce qu'on appelle la centrale marginale. Et il s'avère que cette dernière centrale qui se met en route justement quand il y a des périodes de pointe, donc c'est pas la base, c'est quand cette dernière centrale se met en route quand il y a un accroissement de la demande, c'est des centrales au gaz. Et c'est pour ça que le prix de l'électricité est aligné sur le prix du gaz. Parce que systématiquement, on va se retrouver avec un prix au comptant, hein, au jour le jour, de l'électricité qui est lié au coût des centrales au gaz.
Donc clairement, ce système ne fonctionne plus.
Alors, il fonctionnait très bien. Le problème, c'est l'explosion du prix du gaz qui fait qu'on s'interroge maintenant. Alors, justement, comment réagir ? Il y a différentes possibilités. Il y en a une qui me paraît intéressante, c'est celle qu'ont appliquée justement les deux pays que j'évoquais tout à l'heure, l'Espagne et le Portugal, qui sont en partie déconnectés de ce marché européen de l'électricité. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont mis un prix plafond sur le prix du gaz destiné à leur centrale électrique. C'était 40 euros le mégawatt-heure et ils ont décidé de l'augmenter de 5 euros chaque mois pour arriver à peu près à 70. Donc oui, on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Ça a un coût sur le budget important, mais ça a empêché l'explosion du prix d'électricité dans ces pays.
Nicolas Bergmans, vous en pensez quoi de toutes ces mesures annoncées qui doivent encore être débattues, adoptées au Parlement et européen et par l'exécutif européen ? On va dans la bonne direction pour essayer de limiter les prix.
On va dans une direction, en tout cas dans un débat qui est important et très important dans le contexte actuel.
Quand je me douche plus de 10 minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons, j'imagine un iceberg qui fond. Si je laisse ma télé en veille, je m'endors d'un mauvais sommeil. Et si mes nuits sont polissonnes, j'assume pas mon bilan carbone. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux.
La sobriété, l'Europe semble redécouvrir ce mot. On écoute d'ailleurs le président français Emmanuel Macron.
Ce plan de sobriété, la logique dans laquelle on va plutôt rentrer dans un premier temps, est une logique de mobilisation générale et pas d'obligation ou de coercition. Je pense que c'est très important parce que moi je crois dans l'intelligence collective et nos compatriotes sont tout à fait conscients de cela.
Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est aussi la fin des évidences. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance.
Lionel Ragot, il va falloir changer nos habitudes. C'est pas si évident parce que la plupart des Européens n'ont peut-être pas conscience de la flambée des prix.
Je veux juste donner un chiffre pour que on comprenne bien quand même ce qui se passe sur ce marché-là. Sur les marchés à terme, c'est-à-dire, on n'achète pas toujours du jour au lendemain. Hein, donc parfois, on achète à l'horizon de 2 ou 3 mois. Donc sur le prix de gros d'électricité, actuellement, quand vous voulez acheter des mégawatt-heure pour l'hiver, donc début 2023, si on était avant la crise, c'est à peu près 50 euros le mégawatt-heure. Hein. Fin août, pour la France, ce n'est pas 50 euros. Ça a été 1100 euros le mégawatt-heure pour la fourniture à début janvier 2023. Donc vous voyez, l'augmentation est passée de 50 euros à 1100 euros. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur. Alors, on ne le voit pas pour l'instant, hein, on ne le voit pas du tout. Donc vous voyez, l'augmentation qui a été annoncée de 15%,
elle n'a rien à voir avec ce qui se passe. Les prix de l'énergie, la Première ministre vient de l'annoncer.
Mais c'est vrai que dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Angleterre, ils ont laissé faire le marché et certains consommateurs ont vu multiplier par 3 leur facture. Et c'était même fois 4.
La nouvelle Première ministre, Liz Truss, vient de lancer un plan.
Parce que vous imaginez les effets que ça peut avoir.
Pour aider les citoyens. Nicolas Bergmans, il va falloir complètement changer nos habitudes.
Alors, je pense qu'il faut s'interroger sur ce qu'on peut faire pour réduire notre consommation énergétique. Et là, finalement, les plans qu'on appelle de sobriété sont utiles dans le sens où ils visent à faire prendre conscience de cela à des acteurs qui sont en position de prendre des décisions. La question, c'est évidemment, sans signal prix, en tout cas sans augmentation du prix de l'énergie. Alors, on a eu une annonce hier quand même qu'on allait augmenter un petit peu les prix de l'énergie. L'incitation économique n'est pas là. Donc, on compte finalement sur la bonne volonté, la mobilisation générale, etc. etc. Et ça peut avoir une influence. Ça a notamment une influence quand on considère les besoins de chauffage cet hiver, où la différence entre 19 et 21 degrés dans un logement peut impacter fortement la facture et les volumes consommés. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est quand même important, c'est que changer nos habitudes, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on est dans un cadre d'urgence, on propose des mesures qui s'appliquent pour cet hiver. Mais si on veut vraiment changer nos habitudes, il faut le planifier dans le temps, il faut organiser les infrastructures dans ce cadre-là, par exemple sur les besoins de mobilité, pour faire en sorte qu'on utilise moins la voiture, plus le vélo. Sur l'isolation des logements, ça, on parle plutôt d'efficacité énergétique, mais ça, c'est un grand chantier qui est devant nous. Et tout ça, ça se planifie avec le temps. Et on a une deuxième bonne raison, au-delà de cette crise énergétique, pour le faire, c'est nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, où finalement, ces actions-là contribuent à notre indépendance vis-à-vis des hydrocarbures importés, et notamment des hydrocarbures russes, mais aussi à réduire notre empreinte CO2.
Nicolas Mélan, la question de la sobriété, c'est pas simplement, ne doit pas simplement reposer sur les épaules des individus, des consommateurs. C'est aussi une économie qui doit se transformer.
Bien sûr, et c'est là où c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Mais juste rappeler un chiffre, en 2020, nous avons été très sobres. Nous avons fait moins de 10% de consommation d'énergie. Nous avons fait un PIB qui a baissé de 7%. Nous avons été très sobres avec le Covid. Sauf que là, c'est pas 10% qu'on doit faire, c'est 12%. Donc, si on s'enferme tous chez nous, qu'on ferme toutes les entreprises et qu'on ferme tous les magasins en essentiel, on va y arriver. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une méthode qui soit acceptée par tous les Français. Parce que le vrai problème, c'est ça. La sobriété, elle va se faire où ? Alors oui, nous, on peut mettre un pull au vert. Mais la moitié de la consommation, c'est l'industrie, c'est les collectivités. Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Ben, elles vont fermer les piscines. Elles vont fermer les stations de ski. Elles vont fermer les usines. Et donc, la sobriété, c'est surtout la désindustrialisation vers laquelle on s'oriente aujourd'hui. Je voulais juste revenir sur les moins 15% de la consommation de gaz. Parce qu'on dit qu'on ne va pas pouvoir les substituer. Mais si, parce qu'aujourd'hui, on les remplace par quoi ? Par du charbon dans tous les pays européens, et par du diesel. Tous les industriels, et aussi maintenant même des particuliers, s'achètent des générateurs diesel pour pouvoir remplacer soit le gaz, soit l'électricité.
C'est aussi une question de timing, Nicolas Bergman. C'est-à-dire que dans un premier temps, en effet, ça désorganise l'ensemble de l'économie, mais pour essayer de se décarboner, ça prend un petit peu de temps.
Tout à fait, ça prend du temps. Il y a des temporalités, des mesures à court terme et des mesures à moyen terme et des mesures à long terme. Les mesures à court terme, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire ma consommation énergétique avec le logement que j'ai, avec la vie que j'ai aujourd'hui. Et ensuite, les mesures de moyen terme, c'est l'accélération de l'investissement dans des productions alternatives d'énergie et passer d'une énergie à l'autre, peut-être, dans les technologies de chauffage. Et à plus long terme, il faut construire des infrastructures pour un monde neutre en carbone. Évidemment que c'est difficile, c'est la marche est haute. Hein. Quand on regarde le plan de la Commission européenne, on veut doubler notre production d'énergie renouvelable en 8 ans. Donc ça demande une prise de conscience assez élevée, mais néanmoins, ce n'est pas impossible si on se donne la peine et qu'on mobilise les capacités de transformation de la société dans ce sens.
Pour éviter la grogne sociale, on demande la sobriété. On fait un bouclier tarifaire pour les prix de l'énergie. Combien de temps les États vont-ils pouvoir donner ce cadeau tarifaire à leurs élus ? Lionel Ragot.
Ça, c'est une question difficile parce que ça coûte cher, hein, effectivement. Donc, on a déjà évoqué des pistes de financement, hein, la taxation des surprofits, hein, ou récupérer une partie des profits des secteurs de l'énergie qui n'ont pas vu leur coût augmenter et qui pourtant bénéficient de la hausse de leur prix de vente. Mais c'est pareil, c'est des solutions temporaires de crise. Il faut à terme essayer de retrouver des prix acceptables pour les consommateurs.
Carrefour de l'Europe. Frédéric Lebel.
Carrefour de l'Europe sur la crise énergétique. Peut-on se passer de la Russie et à quel prix ? La crainte d'une contestation sociale, eh bien là, on en a parlé. Il y a bien sûr une crainte aussi de faillite d'entreprises en raison des prix d'énergie. Et on pense à l'industrie automobile, mais pas seulement, Lionel Ragot.
Oui, bah, y a beaucoup de secteurs, hein, ceux qui dépendent beaucoup du gaz et qu'on ne peut pas forcément remplacer par l'électricité parce qu'il faut produire beaucoup de chaleur, je pense, au laminoir, à la sidérurgie. Ils peuvent difficilement s'en passer. Vous avez beaucoup d'autres secteurs, l'engrais qui dépend du gaz aussi. Et c'était un des enjeux d'ailleurs dans les négociations de l'ONU avec la Russie. S'il y a un blocus sur le gaz, comment on va produire l'engrais qui est nécessaire pour la production agricole à venir, hein. Donc il y a plein de secteurs comme ça qui dépendent fortement du gaz et pour lesquels il y a un vrai enjeu.
Et puis sans vouloir dresser un tableau apocalyptique, on a beaucoup parlé aussi des risques de faillite dans le secteur énergétique, avec des faillites à la Lehman Brothers, des différents acteurs énergétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les dangers qui se posent aujourd'hui en raison de la flambée des prix?
C'est le coût d'achat, oui, effectivement. Donc, si les prix de vente ne suivent pas, elle peut faire faillite. Donc, alors, c'est plus
Nicolas Bergmans, oui. Peut-être, sur ce risque de faillite.
Très prosaïquement, en fait, c'est un marché financiarisé. Donc, qui dit marché financiarisé dit qu'on a des acteurs qui, entre eux, passent des contrats. Et pour garantir ces contrats, il y a des garanties financières qui sont posées sur le côté. Donc, quand on garantit un bien qui est à 80 euros le mégawatt-heure, ce n'est pas la même chose que garantir à 400. Il faut avoir des ressources financières plus importantes. Et la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de petits acteurs ou des acteurs qui ne s'étaient pas prémunis ou, comme on dit en termes financiers, couverts face à une situation comme celle-là, parce qu'elles n'étaient pas anticipées. Et donc, il y a un risque sur certaines compagnies. On voit que l'Allemagne a déjà aidé, par exemple, des grandes entreprises, Uniper, à passer le cap. En France, on est... Alors, il y a plus de raisons, mais on est aussi en train de renationaliser EDF. Donc ça, c'est de l'argent qui vient du budget de l'État. Donc, il y a un besoin de soutien pour que ces acteurs ne s'effondrent pas. Et donc, du coup, derrière, qu'il y ait un risque de faillite en chaîne dans le secteur énergétique.
Il y a aussi la crainte que les objectifs de lutte contre le changement climatique passent à la trappe. On en a un petit peu parlé dans cette émission. L'Union européenne et son plan vert, pourtant ambitieux, puisqu'on parle d'une neutralité carbone à l'horizon 2050, 55% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, autant dire demain. On va y arriver, Nicolas Mélan ?
Le problème sur le changement climatique, c'est qu'on a un petit tropisme, nous, Européens, c'est qu'on aime bien se regarder le nombril. Donc on regarde le nombril en France, on regarde le nombril en Europe. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer quand on se passe de la Russie sur le gaz naturel? Ce qui va se passer, c'est que les Chinois, au lieu de faire tourner des centrales avec du gaz naturel, ils vont nous le revendre et ils vont les faire tourner au charbon. Rien que pour cette année, la Chine et l'Inde, c'est 600 millions de tonnes de charbon extraites en plus, c'est-à-dire plus que la production totale des États-Unis sur le charbon. Et j'aime bien rappeler aussi que depuis que nous avons mis en place les conférences des parties depuis 20 ans, nous n'avons jamais autant augmenté nos émissions de CO2, qui sont d'ailleurs un maximum absolu en 2021. Donc tant qu'on continuera à ne regarder que si on met quelques panneaux solaires sur les toits de Paris et des éoliennes dans la Manche, malheureusement, j'ai peur que ce problème planétaire, on ait du mal à le régler.
Mais on n'a pas vraiment de main sur la question planétaire. Pour l'instant, on essaie sur l'Europe. Lionel Rago, vous avez fait une note au CEPI. Vous êtes plus optimiste. Vous dites, vous, il faut vraiment maintenant investir dans les énergies renouvelables.
Cette crise énergétique, mais qui est consécutive à la guerre en Ukraine. Donc, malheureusement, c'est une opportunité. Mais vous comprendrez que je ne veux pas utiliser ce mot-là en référence à la guerre en Ukraine, mais à moyen et long terme. C'est-à-dire que clairement, compte tenu du renchérissement du prix des hydrocarbures, là, on a le signal prix qu'avait été évoqué tout à l'heure, qui est fort, qui est violent et qui va entraîner beaucoup d'investissements qui n'auraient pas été faits ou plus difficilement auparavant. Il faut quand même bien voir, je vous rappelle que les gilets jaunes, c'était à l'origine, après il y a beaucoup de choses qui se sont greffées dessus, c'était une augmentation de quelques centimes du prix à la pompe. Donc quand on voit l'augmentation du prix à la pompe qu'il y a aujourd'hui, ils ne vont pas aller manifester devant l'ambassade de Russie, ça sera inefficace, ça ne servira à rien, mais ça entraîne beaucoup de modifications de comportement dans les firmes, qu'ils ne l'auraient pas fait s'il n'y avait pas eu une explosion du prix des hydrocarbures. Donc vous voyez, à moyen long terme, ça va se faire. Par contre, à court terme, c'est ce qui a été évoqué précédemment, on ne va pas suivre la trajectoire qui était prévue à court terme. À très court terme, on rouvre les centrales à charbon, en Chine c'est abondant, en France, en Europe, on n'a pas le choix. Donc à court terme, c'est pas bon.
Donc on prend un retard de quoi ? Quelques années ou de une décennie ?
Ça va dépendre de combien de temps ça dure.
Ça va surtout dépendre des actions qui vont être prises, décidées maintenant et dans les mois et années à venir, et surtout de la mise en route de cette accélération dont on a besoin sur la transition énergétique. Donc, est-ce qu'on est capable d'investir dans les éoliennes ? Est-ce qu'on est capable d'investir dans les panneaux photovoltaïques ? Pour les pays qui le choisissent, est-ce qu'on arrive à relancer peut-être l'énergie nucléaire ? Et juste pour donner un exemple, il y a de la marge quand même. Si on prend le cas de la France, on est en train d'ouvrir notre premier parc éolien offshore, donc en mer, éolien en mer, à Saint-Nazaire. C'est 0,48 gigawatts, donc 480 mégawatts de puissance de production. Au Royaume-Uni, juste en face, ils en ont déjà 20 fois plus en fonctionnement aujourd'hui. Donc, on peut
mais la
faire
France
plus.
Est le très mauvais élève européen des énergies renouvelables.
Oui, ça là-dessus, par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés, oui. C'est le seul qui ne les a pas atteints. Après, il y a des pays qui ont moins d'énergies renouvelables que la France en valeur absolue.
Alors justement, l'Europe et les énergies renouvelables, je vous propose d'écouter la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, toujours elle, qui devant les eurodéputés mercredi à Strasbourg parlait de lendemain qui chante.
La bonne nouvelle est que cette transformation nécessaire a commencé. Elle a lieu en mer du Nord et en mer Baltique, où nos États membres ont massivement investi dans l'éolienne en mer. Elle a lieu en Sicile, où la plus grande usine solaire d'Europe produira bientôt la toute dernière génération de panneaux solaires. Et elle a lieu dans le nord de l'Allemagne, où les trains régionaux roulent désormais à l'hydrogène vert. L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. Nous devons passer du marché de niche au marché de masse pour l'hydrogène. Et avec REPowerEU, nous avons doublé notre objectif. Nous voulons produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030.
L'hydrogène vert, Nicolas Bergman, c'est une des énergies qui peut nous aider à aller vers la neutralité carbone ?
Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre sur l'hydrogène, c'est que ce n'est pas une énergie, c'est un vecteur énergétique. Donc on a besoin de production énergétique pour produire de l'hydrogène. Et donc derrière, l'hydrogène vert, l'idée, c'est d'avoir en fait de l'hydrogène produit par électrolyse. Donc on a besoin de capacité de production et de volume d'électricité, en fait. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. On a évoqué déjà la situation européenne dans la crise actuelle en termes d'approvisionnement d'électricité. Donc il faut pouvoir compter sur ces volumes d'électricité. Le second point, c'est que, évidemment, ce processus n'est pas neutre sur le plan énergétique. On perd, en fait, pas mal d'énergie au passage. Et tout l'enjeu pour l'hydrogène, c'est de l'utiliser là vraiment dans les usages dont on a besoin. Et finalement, ces usages sont limités, sont importants. On évoquait notamment le risque de désindustrialisation. Des processus décarbonés de production industrielle, il y en a un certain nombre qui font appel à l'hydrogène. Et là, oui, pourquoi pas. Mais par contre, de l'hydrogène, comme parfois c'est présenté comme un substitut au gaz pour tous les usages actuels du gaz, le gaz aujourd'hui, on l'utilise beaucoup dans le bâtiment notamment, ça risque de ne pas le faire parce qu'on aurait besoin de beaucoup, beaucoup trop d'électricité en face pour pouvoir couvrir ses besoins.
Oui, l'hydrogène, ça peut servir pour le transport.
Alors éventuellement le transport lourd, quand il y a des besoins de stockage importants, donc le maritime par exemple, éventuellement dans un stade intermédiaire dans la production de carburant décarboné pour ce qui nous restera d'aviation à terme peut-être, mais le principal c'est pour des besoins industriels, donc notamment production d'acier, production d'ammoniac, etc. etc.
J'ai une question à plusieurs milliards pour conclure cette émission. Cette crise énergétique, quand finira-t-elle ? Lionel Ragot.
Pour répondre à cette question, il faut répondre à une autre question. Quand est-ce que cette guerre en Ukraine va se terminer et surtout dans quelles conditions elle va se terminer ? Donc vous voyez, ça va être quand même très très difficile de vous répondre aujourd'hui sur à quel moment va revenir à un fonctionnement plus normal des marchés du gaz et de l'électricité.
Nicolas Mélan, vous avez...
Moi, j'ai la réponse, donc je veux bien les milliards. En fait, on était déjà, avant la guerre en Ukraine, dans un marché qui commence à être contraint sur les approvisionnements en gaz et pétrole. Et la guerre en Ukraine n'a fait qu'exacerber. Et donc, elle marque la fin d'un monde avec de l'énergie peu chère. Et donc, il va falloir s'adapter, il va falloir changer nos comportements. Mais malheureusement, je crois que ce monde est derrière nous et nous entrons dans le monde d'après.
Carrefour de l'Europe sur la crise énergétique était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Un grand merci à nos quatre invités, Lionel Ragot, Nicolas Bergmans, Nicolas Mélan et en ligne Christine Dugoin-Clément. Merci aussi à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine et c'est Julia Trangeval qui présentera Carrefour de l'Europe qui sera consacrée aux élections en Italie.